Bonjour à tous et bienvenue sur Calade. Au sommaire de notre journal, local et régional.
Rhône, Académie de la transition énergétique et massification du photovoltaïque sur le territoire du Rhône, une première pour un département français. Avec nous, Frédéric Pronchéry, vice-président délégué à l'environnement du département du Rhône et maire de Belleville-en-Beaujolais. Puis, protection de l'enfance, l'accueil de tout petit. Avec nous, Myriam Delay, directrice pour l'association Acolea du dispositif d'accueil en urgence du Rhône. Et en conclusion, au musée municipal Paul Digny à Villefranche, ça bouge. Calade, le journal. Les contours du printemps s'effacent progressivement, explique l'historien François Walter à Hortense Chauvin pour Reporter. Ils sont aujourd'hui rebattus par le changement climatique et le mode de vie urbain, nous dit donc l'historien professeur honoraire à l'Université de Genève, qui vient d'écrire un ouvrage sur l'histoire de la ville, du climat et de l'environnement, publié aux éditions Payot, consacré au printemps. Du point de vue astronomique, le printemps commence toujours le 20 mars pour finir le 21 juin. Mais dans le vécu quotidien, les choses ont changé. Le printemps était autrefois la saison la plus prisée. Colette écrivait dans les années 40 que le printemps était la seule saison que l'on attend, parce que l'été s'impose et que l'on redoute l'hiver. Mais depuis un siècle, le printemps est dévalorisé. Ce qui faisait la spécificité du printemps, c'était sa douceur, sa lumière ou encore l'exubérance de la floraison. Le printemps était défini en contrepoint avec l'hiver que l'on redoutait et auquel on souhaitait échapper. C'est moins le cas aujourd'hui, car on a apprivoisé l'hiver. Avant le milieu du XXe siècle, la vie paysanne rythmait encore beaucoup le vécu quotidien. Il fallait accorder une attention soutenue au calendrier agricole, observer la nature pour savoir quand semer telle ou telle plante. L'intensité du travail de la terre explique l'importance des rituels festifs printaniers, comme si l'on avait besoin de souffler durant cette saison intense. Des processions avaient lieu dans toutes les communautés agricoles pour bénir les cultures et les immuniser contre les aléas naturels, l'orage, la grêle, les épidémies. On craignait particulièrement les gelées de mai, dont les conséquences pouvaient être catastrophiques. Toute une série de fêtes. Et il y avait en plus de cela des rituels, se rapprochant de la magie. Des personnages étaient habillés de branchages afin d'incarner l'esprit de la végétation et faire en sorte que la fécondité des végétaux soit préservée. Ces rituels festifs n'ont plus vraiment cours aujourd'hui. L'attention aux saisons est modifiée par le mode de vie urbain qui est indifférent. On vit dans des environnements aux températures constantes, où chaque produit est disponible en toute saison dans les supermarchés. À part les jardiniers amateurs, personne ne se soucie plus des dernières gelées du mois de mai. Joli mois de mai, mesdames, joli mois de mai, messieurs. Le département du Rhône a initié une stratégie globale partenariale de transition énergétique qui encourage l'installation et la production d'énergie renouvelable et mise en place une académie de la transition énergétique qui permettra de former les élus, agents et techniciens aux enjeux de cette transition dans la journée du 24 avril dernier à Belleville en Beaujolais. En avant toute donc pour atteindre le vertueux et la sobriété, avec nous Frédéric Pronchéry, vice-président délégué à l'environnement du département du Rhône et maire de Belleville en Beaujolais. On l'écoute.
Alors en fait, elle se lance conjointement avec un appel à manifestation d'intérêt pour massifier la production de photovoltaïque sur le territoire. Et donc, on s'aperçoit que les solutions techniques, on les a. Maintenant, c'est comment avoir une politique extrêmement ambitieuse pour remplir des objectifs d'ici très rapide, hein, d'ici 2027, d'ici 2030 et d'ici 2050. Et donc, l'idée a germé au sein du département du Rhône de créer l'Académie de la transition énergétique parce qu'on s'aperçoit qu'il y a besoin d'acculturer l'ensemble des élus, des agents, des techniciens, de manière à partager l'information et la connaissance de façon transversale au même niveau. Et ensuite, ces nouvelles technologies, dont le photovoltaïque, elles évoluent très vite. Elles évoluent très vite techniquement, mais elles évoluent aussi très vite au niveau législatif. Et donc, il faut pouvoir suivre cette actualité. Et cette académie sera un lieu où, justement, on pourra, l'ensemble des personnes qui en feront partie, pourront suivre et avoir des conseils au jour J, quoi.
Alors, si je comprends bien, cette académie, en fait, c'est un outil de formation.
Oui, c'est un outil de formation en direction des élus, en direction des agents et des techniciens des collectivités. Mais c'est aussi un lieu de rassemblement de tous les partenaires. Vous voyez qu'à travers la stratégie de massification du photovoltaïque du département, qui va être la première stratégie d'un département comme ça en France, avec un partenariat public-privé, mais qui a un partenariat très large avec les deux CCI du Rhône, la Chambre d'agriculture et l'OPAC du Rhône, il faut aussi qu'avec les partenaires, on puisse échanger quotidiennement sur les freins qui vont se voir jour en face de cette massification du photovoltaïque. Et afin de l'élever, eh bien, on partage toutes les connaissances. Et puis, cette Académie de la transition énergétique, elle est là aussi pour former. Et donc, il y a un partenariat qui est en train de se créer avec le CNFPT, qui est là pour justement former les agents, les élus, de façon à pouvoir les former en permanence sur les énergies renouvelables.
Alors, les habitudes sont prises et on voit bien, et on en a parlé là tout à l'heure, effectivement, le changement de conduite, des comportementales des individus, et c'est beaucoup plus difficile.
Alors c'est beaucoup plus difficile parce que c'est plus facile de laisser faire aux autres ce qu'on devrait faire soi-même. Et en fait, un des combats des élus doit être de se dire que les élus en premier et les citoyens, on a tous notre rôle à jouer. Il ne faut pas attendre des autres de faire à notre place, il faut chacun qu'on agisse. Alors, on est parfois démunis parce qu'il y a certaines actions qui demandent de l'argent, de la technicité, etc. Mais en tout cas, on peut tous participer à notre échelle à ce que l'humain retrouve sa place au milieu de la nature.
Alors on peut dire que Belleville en Beaujolais, c'est une ville bio-climatique, environnementale. Comment on peut porter effectivement dans les collectivités
en fait,
et de convaincre aussi ses concitoyens?
Bien sûr. En fait, il faut redonner aux citoyens son rôle premier, c'est-à-dire qu'il doit être un des acteurs. C'est ce que je disais précédemment. Et l'élu est aussi un citoyen. Et donc, il faut montrer... Moi, je suis quelqu'un de positif.
On a vu positiver.
Oui, il faut travailler le positivisme. En fait, si on regarde les chiffres de façon très brutale, c'est très, très inquiétant. Ce n'est pas inquiétant pour la planète, parce qu'à long terme, la planète, elle s'en sortira. Dans des millions d'années, elle sera toujours là.
C'est nous qui ne s'en sortirons pas.
C'est peut-être les hommes qui y seront plus dans cette planète. Et donc, il faut bien comprendre que il faut voir les choses de façon positive. Autrement, on baisse les bras et on se dit que c'est avec les trajectoires qui sont engagées, les carottes sont cuites. Non, il y a encore de l'espoir. Il faut mettre en place des actions très rapidement et collectivement.
Juste sur l'académie, ça démarre quand exactement? On le lance et quelle est la suite?
Eh bien, l'académie est lancée officiellement aujourd'hui et donc les prochaines étapes, c'est des réunions où justement on va convier l'ensemble des collectivités, l'ensemble des partenaires autour de la table, proposer des formations, comme je vous le disais tout à l'heure, de façon à acculturer en permanence. Donc ça y est, c'est parti.
Un modèle de partenariat public-privé inédit à l'échelle d'un département. Première Biennale des territoires en transition du Rhône et lancement de l'Académie de la transition énergétique du Rhône cette matinée du lundi 24 avril à Belleville-en-Beaujolais. Pouponnière, l'accueil des tout-petits sur le versant de la protection de l'enfance. La plupart du temps, sur ordonnance judiciaire de placement, il incombe aux équipes de prendre en charge des enfants, souvent porteurs de troubles ou de pathologies diverses, ainsi que des familles en souffrance. Un quotidien intense où richesse et difficultés cohabitent. Avec nous, Myriam Delay, directrice pour l'association Acolea du dispositif d'accueil en urgence du Rhône.
Le travail, c'est l'accompagnement au développement de l'enfant, aux soins. Donc ça va être la vigilance, c'est une figure d'attachement le matin et le soir, c'est une équipe de trois par lieu de vie. Un lieu de vie, c'est six enfants. Six enfants avec une auxiliaire de puériculture en présentiel, tout le temps, qui est là pour les accompagner à l'éveil, aux soins, au repas. Le soutien, c'est celui de maître de maison, qui vient là pour faire la réchauffe des repas, l'entretien des surfaces. Une psychologue aussi, qui accompagne les enfants dans cette situation de rupture avec leur environnement familial. Et également une coordinatrice, qui est éducatrice spécialisée, pour coordonner un petit peu les équipes dans l'accompagnement spécialisé, spécifique de chaque enfant. On a aussi une professionnelle infirmière puéricultrice, qui est là du lundi au vendredi. Et on a un temps partiel de pédiatre qui est là une journée par semaine.
Parce qu'il y a évidemment un bilan, j'imagine, régulier de ce pédiatre.
Voilà,
évidemment.
Le pédiatre voit les enfants toutes les semaines. Et puis, si on a des soucis de santé, on est en lien avec la maison médicale du secteur qui nous reçoit rapidement pour un accompagnement à la santé.
Et avec les aléas, évidemment, d'une collectivité, j'imagine, quand un nourrisson prend un rhume, tout le monde prend le rhume.
Voilà, et puis si on est dans une période de bronchiolite, eh ben, on va être plus en lien avec les services pédiatriques là, de l'hôpital de Villefranche.
Quelle est la mission de ces auxiliaires du quotidien ?
C'est un travail de soins de proximité, de figure d'attachement, de mise en confiance avec un adulte, différent que celui du parent. C'est quelqu'un qui va être là de manière régulière, que l'enfant auquel va pouvoir s'attacher, et aux professionnels de trouver la juste distance pour être dans un travail de don de soi, de son temps, de sa présence auprès des enfants, mais aussi de la juste distance que ces enfants ne nous appartiennent pas et qu'il nous faut aussi faire exister cet attachement à leurs parents, à eux, qui existent toujours, ce n'est pas des enfants abandonnés. L'autorité parentale existe et perdure, donc on est à faire exister le parent aussi quand ils sont avec nous par des photos, des doudous donnés par les parents ou des objets plus personnels.
C'était Myriam Delay, directrice pour l'association Acoléa du dispositif d'accueil en urgence du Rhône, rencontrée lors de l'inauguration de la pouponnière à Frontenat. Et pour conclure cette édition, idée, dans le cadre de la nouvelle exposition au musée municipal Paul Digny à Villefranche, le toucher du monde, la possibilité d'éveiller sa curiosité sur la toute nouvelle exposition. Nous sommes accompagnés de Jean-Charles Vergne, directeur du FRAC Auvergne. On l'écoute.
Oui, tout à fait. Donc, l'idée qui est née en 2018, là, puis après il y a eu évidemment les années Covid, donc on a pris un peu de retard. L'idée consistait en fait à établir un dialogue entre les collections du musée Paul Digny et celles du Fonds régional d'art contemporain Auvergne, tout simplement parce que nos collections déjà ont des identités qui sont assez proches, puisqu'on a développé deux collections autour de la peinture et l'histoire de la peinture. Et puis on s'est rendu compte avec Sylvie Carlier, la directrice du musée Paul Digny, on s'est rendu compte qu'on avait des artistes en commun. Il y avait un certain nombre de peintres qui étaient présents dans les deux collections. Donc la première idée, ça a été d'organiser une exposition réunissant les artistes que nous avons en commun dans nos collections. Et puis ensuite, on a étendu cette idée. On a rajouté des artistes de la collection Digny, de la collection du FRAC, que nous n'avons pas en commun, pour créer un parcours qui donc s'appelle Le toucher du monde, qui est un parcours qui fonctionne un petit peu de manière assez ludique, un peu comme un jeu d'enfant, comme un jeu de marabout, bout de ficelle, selle de cheval. C'est-à-dire que les œuvres s'enchaînent les unes avec les autres par rebonds successifs de motifs, de couleurs ou de thématiques. Et on passe d'une œuvre à l'autre. Et passant d'une œuvre à l'autre, on va progressivement passer d'un thème à l'autre. Et on va, typiquement, dans le premier espace du musée, par exemple, on commence avec l'enfance, avec des représentations de l'enfance, tableaux qui représentent des bébés, des enfants, etc. Et le parcours se termine par la vanité. Hein, donc c'est grand thème de l'histoire de l'art, cette manière qu'ont les peintres de représenter un certain nombre de choses. Ça peut être des crânes, ça peut être des natures mortes, ça peut être des bouquets de fleurs. La vanité, c'est ce qui nous indique que nous sommes mortels. Voilà, donc on part de l'enfance et on termine sur ce thème. Et entre les deux, on a traversé des paysages, on a vu des fleurs, on a vu une photo de la NASA, du ciel de Mars, de la planète Mars. Et on parcourt comme ça différentes thématiques.
Le toucher du monde, nouvelle exposition du musée municipal Paul Digny à Villefranche-sur-Saône jusqu'au 17 septembre. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.